Religion du monde, Geneviève Delru.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Au sommaire de Religion du monde, le cessez-le-feu fragile au Haut-Karabakh et la dimension religieuse présente dans ce conflit territorial. On reviendra sur l'encyclique du pape François sur la fraternité en mettant l'accent sur les points clivants de ce texte. Et puis, quelle spiritualité pour temps de Covid, où puiser les enseignements de sagesse, Christian Macarian nous guidera avec son dernier livre dans le patrimoine religieux et philosophique qui s'offre à chacun d'entre nous. Haut-Karabakh fragile, cessez-le-feu entré en vigueur il y a 8 jours. Depuis fin septembre, le Haut-Karabakh est le théâtre de violents affrontements entre l'Azerbaïdjan, soutenu par la Turquie d'Erdogan, et l'Arménie, venue porter secours à la population majoritairement arménienne et chrétienne de ce petit territoire montagneux enclavé dans l'Azerbaïdjan musulman et qui a autoproclamé son indépendance en 1991 au moment de l'effondrement de l'URSS. Ce conflit territorial était en sommeil depuis 30 ans après la guerre dévastatrice entre 1992 et 1994. Il ressurgit avec les ambitions d'Erdogan dans le Caucase, après ses déconvenues face à la Russie en Syrie et en Libye, et aussi avec la crise pétrolière qui affaiblit sur le plan intérieur le président azéri. Pour les Arméniens, c'est le spectre du génocide perpétré en 1915 par la Turquie qui revient. Avec nous en ligne, Mgr Pascal Golnisch, directeur général de l'Œuvre d'Orient. Bonjour père.
Bonjour.
Vous avez récemment publié un communiqué dans lequel vous rappeliez que c'est l'Azerbaïdjan, soutenu par la Turquie, qui a pris l'initiative du conflit. La Turquie, par son aide sur le terrain, dites-vous, donne une nouvelle dimension à ce conflit territorial, une dimension anti-chrétienne. Ce sont vos mots. Pourquoi ?
Eh bien, parce que je pense que s'il est vrai que la Turquie a envoyé des combattants djihadistes qui étaient en Syrie, se battre sur cette zone du Haut-Karabakh. Je pense qu'il y a quelque part l'idée d'un acharnement contre les Arméniens, et cet acharnement contre les Arméniens qui rappelle bien sûr le génocide de 1915 est une sorte de combat, je crois, anti-chrétien, et qu'on ne veut pas prendre en compte le fait arménien. Le Haut-Karabakh a été arménien tout au long de son histoire, dans une proportion écrasante, puisqu'on pense qu'au début du XXe siècle, quand le Haut-Karabakh a été rattaché autoritairement à l'Azerbaïdjan par Staline, on pense qu'il devait y avoir à peu près 90% d'Arméniens. Par conséquent, il est profondément de population arménienne tout au long de son histoire et pour l'essentiel de sa sociologie. Je constate qu'il y a des églises qui ont été visées par des bombes, et notamment une cathédrale qui a été abîmée. Donc tout ça est totalement inacceptable. Certes, il y a un problème, puisque le Haut-Karabakh donc faisait partie de l'Azerbaïdjan par une décision de Staline. Mais il me semble que nous pourrions appliquer, en effet, au Haut-Karabakh, la solution qui a été trouvée en Serbie, avec le Kosovo, c'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé au Kosovo ? Il y a eu un référendum d'autodétermination, et à la suite de ce référendum, on a créé l'État du Kosovo. C'est une procédure tout à fait discutable, mais je ne vois pas pourquoi elle ne pourrait pas être appliquée au niveau du Haut-Karabakh. Et donc, je pense que les Arméniens ont suffisamment souffert pour que la Turquie ne se ramène pas avec ses gros sabots par rapport à la population arménienne. Je rappelle que la Turquie ne reconnaît toujours pas les faits qui lui sont reprochés, notamment le génocide vis-à-vis des Arméniens et vis-à-vis des Assyro-Chaldéens. Je pense que le minimum de pudeur serait tout de même de ne pas intervenir dans ce conflit.
Mgr Pascal Golnisch, directeur général de l'Œuvre d'Orient. Et l'on poursuit avec Tigrane Yegavian, journaliste, essayiste, spécialiste de géopolitique et auteur du livre « Minorité d'Orient, les oubliés de l'histoire » publié aux éditions du Rocher. Tigrane Yegavian, bonjour.
Bonjour.
Je commence avec vous avec une lettre que j'ai reçue de Mère Aroussiag Sajonian, une lettre adressée aux Français, dont cette religieuse est très connue en Arménie. On l'appelle la Mère Teresa, semble-t-il, de l'Arménie. Alors, c'est un véritable appel aux Français dans lequel elle dit « S'il vous plaît, ne détournez pas les yeux devant ce qui n'est rien de moins qu'un nouveau génocide contre ma communauté. Nos soldats tombent, nos civils meurent assassinés quand ils n'ont pas fui avec les enfants. Nos églises sont détruites, ne règle plus dans nos villes que le fracas de bombes interdites par la communauté internationale. Nous supplions aujourd'hui le monde de réclamer la fin des frappes azéries, turques et djihadistes. » Et elle demande à la fin de cette lettre de reconnaître l'indépendance du Haut-Karabakh. Tigran Igavian, quelle est la situation sur le terrain?
Malheureusement, il n'y a rien d'exagéré dans ce propos d'une teneur absolument dramatique, mais qui traduit bien l'ampleur de la gravité de la situation, étant donné que les Arméniens se battent seuls. Ils se battent seuls contre plusieurs ennemis, plusieurs adversaires, puisque l'Azerbaïdjan, dans cette offensive, est épaulé par la Turquie, par des mercenaires djihadistes, mais aussi par le Pakistan, et que les Russes ne jouent pas forcément un rôle très, on va dire, efficace, puisqu'ils ont tendance à souffler le chaud et le froid. Donc oui, les Arméniens se sentent seuls, ils ne comptent que sur eux-mêmes, et ce qui est en train de se produire sous nos yeux est une sorte de répétition de l'histoire qu'on a déjà vue par le passé, juste au lendemain du génocide, lors de la Première Guerre mondiale. Les Arméniens ne comptent que sur leur propre force, c'est-à-dire la diaspora et cette église nationale arménienne qui fait corps avec son peuple pour la défense de la patrie, étant donné qu'ils sont persuadés, convaincus que s'ils reculent, que s'ils perdent des territoires, les populations vont être systématiquement massacrées ou un nettoyage ethnique va se produire.
Les combats sont acharnés, alors bon, étaient acharnés, mais manifestement, on peut dire, sont encore acharnés, puisque le cessez-le-feu, semble-t-il, ne fonctionne pas. La supériorité aérienne, elle est du côté de l'Azerbaïdjan.
Eh bien oui, le 27 septembre, l'Azerbaïdjan a lancé une attaque blitzkrieg sur le front, sur les 300 km de front. Et si les Arméniens ont fait preuve de pugnacité, ils n'ont pas reculé. Ils n'ont pas l'avantage de l'air, puisque les Azéris utilisent des drones israéliens et turcs massivement redoutables, et les Arméniens n'ont pas les armes pour neutraliser ces drones qui font beaucoup de dommages auprès des populations civiles aussi, puisqu'on bombarde essentiellement des infrastructures civiles pour démoraliser les arrières et aussi pour faciliter l'exode de la population arménienne du Karabakh vers l'Arménie, si vous voulez. Ce qui est en train de se passer, c'est une sorte de nettoyage ethnique pour pouvoir reconquérir ces territoires.
Monseigneur Pascal Golnisch parle d'une nouvelle dimension dans ce conflit avec précisément l'intervention de la Turquie, l'aide de la Turquie, d'Erdogan. Il parle d'une nouvelle dimension, d'une dimension antichrétienne.
Je dirais qu'il y a une instrumentalisation du fait religieux par Erdogan, qui se comporte comme un pyromane dans cette affaire, mais que ce conflit n'est pas en l'essence un conflit religieux, mais plutôt un conflit ethnique. J'en veux pour preuve, l'Azerbaïdjan, dans les années 90, avait essayé de mobiliser la communauté islamique, l'organisation de la conférence islamique, pour qu'elle soutienne ses positions, et elle s'était vue, à part le Pakistan, qui soutient l'Azerbaïdjan, elle s'était vue refuser, si vous voulez, ce soutien. Le monde musulman est plutôt neutre, mais il faut savoir que l'église arménienne, la diaspora arménienne, a une histoire avec le monde arabo-musulman. Il y a à peu près une douzaine de diocèses de l'église arménienne dans les pays arabes et qui vivent en bonne intelligence et dont l'entente est tout à fait remarquable. Je rappelle aussi les efforts du catholicos Aram Ier de Cilicie, qui siège au Liban et qui avait joué un rôle très important au cours de la guerre libanaise pour renforcer le dialogue islamo-chrétien. Alors, il y a aussi, si vous voulez, des accusations de saccage de patrimoine religieux. La cathédrale de Chouchi, qui est en fait le siège du diocèse de l'église arménienne du Karabakh, a été prise pour cible par des bombardements azéris. Mais on oublie de savoir que la partie arménienne, en tout cas le gouvernement du Karabakh, a restauré le patrimoine des mosquées, du patrimoine musulman au Karabakh. Donc, il y a une sorte d'asymétrie en termes de propagande, compte tenu que Il y existe encore des sites musulmans qui sont protégés en Arménie aussi. Vous avez la mosquée bleue d'Erevan, hein, qui est une mosquée ouverte au culte chiite. Et à l'inverse, les Azéris pratiquent une sorte d'ethnocide ou de génocide culturel vis-à-vis des monuments religieux arméniens chrétiens, notamment Nakhitchevan. Il y a aussi un fait très intéressant qu'on ne parle pas, c'est la présence de minorités religieuses en Azerbaïdjan ou ethno-religieuses. Vous avez une petite communauté chrétienne en Azerbaïdjan qui s'appelle les Houdis, dont on entend très peu dans les médias, qui en ce moment est terrorisée par ce qui se passe. J'ai des contacts parmi eux, des gens qui m'écrivent, qui disent qu'on les envoie en première ligne. Et donc, il y a une sorte de blackout total médiatique sur cette question, sur la question de comment l'Azerbaïdjan traite ses propres minorités, qui est en soi un vrai angle mort médiatique.
Première ligne, ça veut dire quoi? Ça veut dire on les envoie au combat, c'est cela?
On les envoie, si vous voulez, sur le front, là où ils sont le plus exposés, là ils ont le plus de chances, si vous voulez, d'y rester.
Alors, dernière question centrale, Tigrane Yegavian. Est-ce qu'un référendum d'autodétermination, comme ça a été le cas pour le Kosovo, hein, en Serbie, vous paraît envisageable?
Absolument. Moi, je vois qu'une seule hypothèse, en tout cas pour un processus politique, une solution politique puisse avoir lieu, c'est la protection des civils, la protection de la population arménienne du Karabakh, et cela passe par la responsabilité de protéger. Il y a un remède à cela, c'est ce qu'on appelle justement la sécession remède, comme on a vu dans le cas du Timor oriental en 1999. Vous avez une population qui est directement menacée de nettoyage ethnique ou de génocide, et donc le seul moyen de la protéger, c'est de reconnaître l'indépendance donc de ce territoire par la communauté internationale comme moyen, si vous voulez, de préserver des vies humaines et d'enclencher un véritable processus de règlement pacifique et politique de ce problème.
Je vous remercie Tigrane Yegavian. Je rappelle que vous êtes l'auteur du livre « Minorités d'Orient, les oubliés de l'histoire » publié aux éditions du Rocher. Merci.
Merci.
Revenons sur Fratelli Tutti, tous frères, la troisième encyclique du pape François sur la fraternité universelle publiée 5 ans après Laudato Si sur la sauvegarde de la planète, notre maison commune. Une encyclique qui développe des points sensibles et clivants comme la question migratoire. Avant d'écouter le journaliste Laurent Dandrieux de Valeurs Actuelles qui a publié sur le site de l'hebdomadaire un article sur cette encyclique, le père Laurent Stalabourdillon qui dirige le SPI, le service pour les professionnels de l'information, en résume l'esprit.
Il s'agit d'alerter l'opinion publique mondiale sur le défi que connaît l'humanité aujourd'hui, qui est le défi de son unité. Ce qui soucie le pape François, c'est de voir le développement économique, technoscientifique, gouverner de plus en plus la façon dont les peuples s'organisent, et de voir que ce développement est ambigu parce qu'il laisse derrière lui des fractures de plus en plus importantes qui laissent dans la pauvreté de plus en plus de monde, et que le défi de l'unité de l'humanité, c'est la possibilité d'éviter ce qui peut se profiler demain qui s'appelle la guerre, mais que le pape François nomme déjà comme présente en étant une guerre en morceaux. Donc la question que pose le pape François va être: comment pouvons-nous aujourd'hui reprendre la main sur la façon dont l'humanité prend conscience de son unité, affronte ensemble les défis auxquels elles sont confrontées? Ces défis étaient déjà abordés dans la date aussi sur la question environnementale, mais aujourd'hui, la grande question qui se pose et que François va aussi aborder dans cette lettre encyclique, c'est la façon dont une exclusion est en train d'apparaître de plus en plus forte, dont la crise migratoire est un symptôme et est un signe.
Le père Laurent Stalabourdillon du SPI, le service pour les professionnels de l'information. Les médias médias chrétiens ont unanimement salué la réflexion du pape François sur l'urgence d'une nouvelle fraternité et amitié sociale, l'encyclique sociale du pape François aborde des questions éminemment sensibles et clivantes, à commencer par celle de l'immigration. Avec nous en ligne, Laurent Dandrieux, journaliste à l'hebdomadaire Valeurs Actuelles et auteur du livre « Église et immigration, le grand malaise, le pape et le suicide de l'Europe » publié en 2017 aux presses de la Renaissance. Laurent Dandrieux, bonjour.
Bonjour.
Dans cet accueil donc positif que je relevais de la part des médias catholiques, votre article publié en ligne prend le contre-pied, voit une encyclique plus politique que spirituelle, et une encyclique qui est une promotion de l'immigration. Expliquez-nous.
Alors oui, effectivement, deux choses. La première, c'est que le ton de cette encyclique me paraît quand même très 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 horizontal. Il me semble que sur la fraternité, il y avait d'autres choses à dire que cette théologie qui est un peu ramenée à de la sociologie. Et notamment, le pape aurait été bienvenu, à mon sens, de faire un peu plus de développement sur l'origine divine et spirituelle de cette fraternité universelle dont il parle tout au long de son encyclique. On s'attendait effectivement à ce que la question de l'immigration occupe, venant du pape François, une part très importante dans une encyclique consacrée à la fraternité. De ce point de vue-là, on n'est pas déçu. Il essaye d'articuler sa position en faveur de l'immigration avec une réflexion par ailleurs intéressante sur l'universalisme, en quoi l'universalisme diffère d'une mondialisation qui efface les identités, mais on peut dire que à la lecture de l'encyclique, il apparaît que pour lui, la question de l'immigration prime toutes les autres, et que en cas de dans cette dialectique, je dirais, entre les deux thèmes universalisme et immigration, c'est l'immigration qui l'emporte très largement et qui fait un peu office de rouleau compresseur qui emporte toutes les résistances. Il y a notamment des phrases assez définitives sur le fait que les frontières ne peuvent pas s'opposer au fait que tout homme puisse avoir accès aux biens ou au niveau de vie d'un autre pays s'il l'estime désirable, et que la question de ce qu'il appelle la destination universelle des biens de la terre eh bien prime sur le droit des nations à défendre leurs frontières, à défendre leurs identités. De ce point de vue-là, il y a un déséquilibre tout à fait net dans cette encyclique en faveur d'une immigration de masse. Voilà.
En fait, pour vous, c'est une défense, vous y voyez une défense du droit de migrer, qui serait donc un droit absolu selon le pape, si on s'en tient à cette lecture première. Bon, dans le même temps, le pape François dit que le premier droit, c'est quand même celui de rester.
Oui, alors, mais c'est comme toujours une question d'équilibre, ou en l'occurrence plutôt de déséquilibre, c'est-à-dire qu'il y a un passage assez rapide où le pape rappelle effectivement la doctrine de l'Église sur le droit à ne pas émigrer, c'est-à-dire le droit à jouir sur sa propre terre de conditions de vie décentes. Mais ayant dit cela, il consacre ensuite des développements beaucoup plus importants et beaucoup plus énergiques au fait qu'effectivement, je cite, « personne ne peut donc être exclu, peu importe où il est né, et encore moins en raison des privilèges dont jouissent les autres parce qu'ils sont nés quelque part où existe plus de possibilités. » Donc il y a cette énonciation très forte du fait que quand quelqu'un estime que ailleurs se trouve la possibilité pour lui d'avoir des meilleures conditions de vie, eh bien il a un droit inaliénable à aller dans ce pays et à le considérer comme le sien propre, quelle que soit la volonté des ressortissants du pays en question. Donc il y a effectivement, avec toujours cette espèce de contradiction, parce qu'on rappelle en même temps le droit à ne pas émigrer, mais il y a une sorte d'absolutisation du droit à migrer qui rend de fait la notion de frontière et même la notion de propriété privée tout à fait inopérante.
Alors vous soulignez également, Laurent Dandrieux, les contradictions d'un pape qui d'un côté voit dans la mondialisation le risque d'une disparition des cultures locales, il parle même de colonisation culturelle, et qui dans le même temps effectivement estime que les frontières, il y a un relativisme dans les frontières. Pour vous, c'est la théorie macronienne du en même temps.
Oui, j'ai eu effectivement le sentiment en lisant cette encyclique que le pape avait été quelque peu contaminé, si je puis dire, par le virus du en même tant cher au président Macron, parce que il y a effectivement des pages, des paragraphes très 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 justes et très importants sur l'universalisme chrétien et la façon dont l'universalisme bien compris doit se distinguer d'une mondialisation qui reviendrait à effacer les identités et à en quelque sorte uniformiser toutes les cultures et tous les peuples. Mais ce qui était très surprenant, c'est que par ailleurs, le pape reconnaît qu'une immigration forte introduit inéluctablement des changements très profonds dans la culture des peuples, et pour autant, il considère que les frontières n'ont pas le droit de s'opposer à cette immigration très forte. Donc à la fois, il défend le droit des peuples à disposer de leur identité, et en même temps, il leur dit « vous allez ouvrir toutes grandes vos frontières, quand bien même cela va changer profondément votre culture ». Donc là, il y a un « en même temps » assez curieux, qui paraît complètement contradictoire, qui me paraît en fait s'expliquer par le fait que quand le pape parle du droit des peuples à défendre leur culture et leur identité, je crains qu'il ne pense en fait exclusivement aux peuples ex-colonisés, aux peuples dits pauvres, qu'il voit comme des peuples victimes, alors que les peuples occidentaux et les peuples européens, étant des peuples qu'ils considèrent comme des peuples exploiteurs et ex-colonisateurs, eh bien, ces peuples-là n'auraient pas les mêmes droits, et en tout cas, leur sort, le sort de leurs identités et de leur culture paraît l'intéresser beaucoup moins.
Je vous remercie, Laurent Dandrieux. Donc, je rappelle le titre de votre livre, paru en 2017, « Église et immigration, le grand malaise, le pape et le suicide de l'Europe ». Et c'était publié aux presses de la Renaissance. Merci beaucoup. Cette période inattendue de l'histoire que nous traversons avec la pandémie du Covid-19, quelle sagesse, quel enseignement aller chercher dans notre patrimoine philosophique, religieux et spirituel, alors que notre société, prise de court, a évacué le concept de la transcendance. Et aussi, quelle relecture faire de nos modes de vie, de notre modèle économique, de nos systèmes de pensée. C'est à cette réflexion majeure que s'attelle le livre de Christian Macarian, Généalogie de la catastrophe, retrouver la sagesse face à l'imprévisible, publié aux éditions du CERF. Christian Macarian, journaliste, essayiste, qui fut notamment directeur délégué de l'Express, est un spécialiste des relations internationales. Bonjour Christian Macarian.
Bonjour Geneviève.
Votre essai est une synthèse très érudite qui couvre les champs, je le disais, de la philosophie, du religieux, du politique. Comment lire son titre, Généalogie de la catastrophe ? Est-ce que ça veut dire, Christian Macarian, comment en est-on arrivé là ?
Oui, comment en est-on arrivé là? Mais bien sûr pas du point de vue sanitaire, mais du point de vue intellectuel, moral et spirituel. Y a-t-il quelque chose qui cloche à ce point dans notre civilisation pour que nous paraissions aussi démunis, désemparés, surpris? C'est normal, il me semble, mais que nous n'ayons plus de réserve intérieure. Et c'est à cela que s'attelle ce livre, pour répliquer à quelque chose d'aussi massif, certes, mais qui n'est pas nécessairement aussi dramatique qu'on le dit. Mon point de départ, c'est que un pourcentage minime, voire parfois infime, de corps sont touchés. Or, tous les esprits, 100% des esprits, sont affectés. Un peu pour paraphraser La Fontaine dans la fable Le Lion et le Rat, mais tout de même, il y a un impact qui dépasse très largement le sanitaire, le viral ou l'épidémiologique, et un impact moral.
C'est le retour des grandes peurs ?
C'est le retour des grandes peurs qui ont été inversées. Par exemple, la question de l'Apocalypse qui a été invoquée très souvent au début de la pandémie par des écologistes ou des gens proches de ce courant-là, a consisté très souvent à faire une mauvaise lecture de tout cela, à avoir une sorte de punition. L'homme serait puni pour sa débauche de matières premières, pour la manière dont il a souillé la planète, dont il a maltraité les espèces animales, et il y aurait donc une sorte d'immanence qui veillerait à tout cela. Je ne crois pas du tout. Je pense qu'il y a une construction idéologique qu'il faut décomposer, c'est ce que j'ai fait dans le livre, en partant des grands philosophes du XVIIe siècle qui ont réfléchi sur le rapport de l'homme à la nature, qui nous ont donné des leçons tout à fait magistrales, mais dont nous avons détourné le sens. Lorsque Descartes dit, par exemple, que l'homme doit être maître et possesseur de la nature, il ne dit pas que l'homme doit maltraiter la nature. Il dit qu'il doit, l'homme, dépasser sa propre mortalité pour arriver à comprendre les mécanismes de la nature et s'en rendre le maître et non plus la victime. Alors donc c'est exactement l'inverse. Pour Descartes, il ne faut pas craindre les épidémies ou les catastrophes naturelles, il faut apprendre à les dominer. Il ne s'agit pas de dominer les espèces animales et de les faire disparaître, ni d'arracher le végétal partout où on peut le faire pour l'exploiter. Il s'agit d'une sagesse intérieure, et c'est cet appel à la vie intérieure que j'ai voulu rappeler.
Descartes qui quand même n'a pas très bien traité les animaux, quand dans sa façon d'appréhender l'animal... il le voyait aussi comme une sorte de machine, hein. Faut pas l'oublier, ça, quand même.
C'est vrai, mais il vivait à une époque où l'animal était encore très menaçant pour l'homme. Il faut que nous réfléchissions à la transformation que nous avons faite de notre rapport au règne animal, végétal et au règne de l'invisible, puisque le virus est de l'ordre de l'invisible. L'homme est en guerre avec tous les règnes du vivant. Encore une fois, le règne végétal, le règne animal et le règne de l'invisible. Mais l'homme est en guerre aussi avec lui-même, à travers tous les conflits auxquels on a assisté, et qui se sont amplifiés pendant cette épidémie, sachant que certains apprentis dictateurs ont profité de la façon dont les pays occidentaux, par exemple, sont empêtrés dans le combat contre le virus, pour mener des offensives, comme on le voit en Méditerranée, avec le leader turc qui se sent pousser des ailes, et comme on le voit en Asie aussi, où la Chine n'a plus aucune retenue.
Un homme effectivement en guerre aussi contre lui-même, c'est une parenthèse mais c'est important. En ce moment, on voit aussi beaucoup la guerre des sexes par exemple, femme contre homme, oui. S'exprimer, ça c'est quand même aussi tout ce qui est discrimination est exacerbé en ce moment.
Oui, parce que l'épidémie provoque une accentuation des fractures préalables. Tout ce qui était tendu devient franchement atteint le stade de la parfois de la rupture. Si l'épidémie était arrivée sur un corps sain, pour reprendre le parallèle avec le corps humain, on aurait assisté à moins de tensions. Mais comme déjà nous avions connu, en particulier en France, des crises sociales majeures, des crises identitaires très vives, eh bien tout cela n'a demandé qu'à se réaffirmer de façon désordonnée, et aujourd'hui on assiste à cette résurgence. Sous la Covid-19, tous les maux de la société apparaissent amplifiés.
Christian Macarian, sur les épidémies de l'histoire, vous insistez sur le fait que, bon, autrefois, effectivement, ces épidémies, eh bien, c'était la punition divine. Et d'ailleurs, on a pu encore un petit peu moins, cette fois-ci, quand même, voir encore un peu la résurgence de cette, comment dirais-je, appréhension-là. Aujourd'hui, comment, justement, l'homme du 21e siècle, qu'il soit au nord ou au sud, regarde cette épidémie? Comment la regarde-t-il alors que la transcendance, hein, je le disais au début d'émission, effectivement, a été évacuée depuis le 18e siècle, depuis le siècle des Lumières?
Oui, l'homme regarde cette épidémie d'abord, à mon avis, comme un effet de catastrophe. C'est-à-dire, c'est l'interruption de quelque chose qui passait pour être harmonieux et équilibré, alors que nous savons très bien que nous vivions dans des sociétés qui n'étaient pas harmonieuses et très déséquilibrées. Et au niveau international, encore plus. Donc, comment on voit tout cela? Regardez, par exemple, pour vous répondre, les milieux économiques. Ce sont les plus affolés, les plus inquiets, à juste titre, puisque tout ce que nous avions construit sur la base du profit, en oubliant qu'une entreprise, par exemple, n'est pas qu'un centre de profit, c'est aussi un centre de projet, c'est aussi quelque chose qui nourrit des gens, qui les fait travailler, c'est-à-dire qu'il leur permet de donner parfois le meilleur d'eux-mêmes. Ça n'est pas que le profit qui doit sous-tendre cette activité économique. Eh bien, les milieux économiques apparaissent les plus proches de ce qu'on appelait dans l'Antiquité cité l'Apocalypse. C'est-à-dire qu'ils voient ça comme une sorte de fin du monde, le monde qu'ils avaient tissé. Mais ça n'est pas nécessairement la fin du monde. C'est une réflexion obligatoire à laquelle nous conduit tout cela. Faut-il calculer toutes les transactions financières à la nanoseconde et imaginer cette espèce de léviathan économique qui soudain a été interrompu très très brutalement. Pour la première fois peut-être dans l'histoire de l'humanité, le tout économique s'est arrêté au profit d'une minorité d'êtres humains qui étaient touché par la maladie. C'est en soi quelque chose qui doit nous faire profondément réfléchir. Voulons-nous relancer la machine comme avant ou voulons-nous en reconstruire une autre, beaucoup plus raisonnable et beaucoup plus respectueuse à la fois de la nature et de l'homme? C'est la question que pose cette épidémie.
Alors, je reviens à Blaise Pascal et à sa fameuse citation sur le bonheur dans une chambre. Alors, cette citation, c'est...
Alors, cette citation, elle mérite...
Au début. Oui, elle mérite d'être éclairée, parce que là, on a été beaucoup, tous, sinon dans une chambre, en tous les cas, dans des appartements.
Alors, cette citation, il faut déjà la restituer telle qu'elle. J'ai découvert, dit Pascal, j'ai découvert que tout le malheur des hommes vient d'une seule chose, qui est de ne savoir pas demeurer au repos dans une chambre. Alors, lu au premier degré, ça veut dire quelque chose d'assez terrible. Il faut s'enfermer dans sa chambre, il faut plus sortir, et là seul réside le salut. Ce n'est pas possible, parce que comme nous l'a dit Kierkegaard, la porte du bonheur ne s'ouvre pas vers l'intérieur. Elle s'ouvre vers l'extérieur, il ne sert à rien de la forcer. Et Kierkegaard, malgré les apparences, dit la même chose que Pascal. C'est-à-dire que le bonheur, c'est bel et bien les autres, et dehors, en dehors de soi qu'il se passe, mais à condition qu'on ait d'abord compris ce que le mot « vie » et le sens de la vie signifiaient, et cela doit se faire seul. Non pas en s'enfermant, en se cloîtrant, mais en réfléchissant, en pensant de la manière juste, comme le dit Pascal, travailler à bien penser, c'est la chose la plus importante, et travailler à bien penser suppose un moment de retrait. Cette épidémie a produit un retrait contraint et forcé, mais ce repli peut aussi être volontaire, intelligent, et peut nous conduire à méditer sur nos propres attitudes, parce que ce n'est pas contre un gouvernement ou des pouvoirs coercitifs que les populations ou les peuples doivent être en guerre. C'est tout simplement contre l'épidémie. L'adversaire, ce n'est pas un pouvoir politique, par exemple, fortement critiqué en ce moment, mais c'est le virus. Et de la même manière, pour le pouvoir, l'adversaire n'est pas le peuple, c'est également le virus. On doit pouvoir comprendre qu'on ne viendra à bout de cette catastrophe qu'à travers un comportement personnel, responsable, différent. Et là, la phrase de Pascal s'éclaire différemment. Dans la chambre, Pascal veut dire à l'intérieur de soi, pas à l'intérieur de moi, car, dit Pascal, le moi est haïssable, mais du soi. La différence entre le soi et le moi, c'est que le soi, c'est l'autre aussi. Et qu'en étant moi-même, je me rapproche des autres. Et que la seule manière d'être avec les autres, c'est d'être en paix avec soi-même. Et cette phrase se lit tout à fait différemment, et elle est, à mon avis, totalement empreinte d'une sagesse infinie.
C'était son acception du christianisme, hein,
oui.
Blaise Pascal, l'avocat de la transcendance.
Oui, Blaise Pascal qui n'a pas l'image d'un type sympathique, disons-le. Voltaire l'a éreinté.
Qu'est-ce qu'il disait, Voltaire, de lui, déjà?
Oh, Voltaire disait que c'était une sorte de...
Un gracheux, non?
De professeur de mort, et que il le traitait, Voltaire, de misanthrope sublime. Alors, sublime pour le style inégalable de la langue française, mais enfin misanthrope quand même. Mais c'est pas vrai, ce n'est pas vrai, et c'est ce que j'essaie de démontrer dans le livre. Il y a chez Blaise Pascal une théorie de l'épanouissement de soi par le développement de la vie intérieure qui est, à mon avis, infiniment moderne.
Ce développement de la vie intérieure qui peut, par exemple, dans une situation comme aujourd'hui, celle du Covid, mener au civisme, à une attitude civique?
Oui, parce que me protéger moi-même, c'est protéger les autres, et protéger les autres, ça commence par me protéger moi-même. Et là-dessus, il y a une complémentarité de l'entité les autres avec l'entité qu'on appelle soi-même. Et il y a une sorte d'appel à la responsabilité, et c'est là que le message chrétien retrouve une sorte de valeur irremplaçable à travers l'histoire racontée telle qu'elle est par les évangiles. Il y a une transformation du bouc émissaire qui est un animal dans l'Ancien Testament en un sauveur qui donne sa vie par amour et qui s'efface parce qu'il appelle les hommes à exercer eux-mêmes leur responsabilité. La Covid-19 m'oblige à penser aux autres et à penser à moi-même de manière indissociable. Et ça, c'est profondément une leçon d'humanisme.
Ça, c'est la remise en cause d'une société de l'individualisme. Alors, qui a trait quand même, qui est en cours depuis un certain nombre de décennies, et d'une société d'ailleurs aussi de la diversion, du divertissement.
Du divertissement, oui. Vous venez de mettre le doigt sur un point essentiel, l'individu. Mais ce que réclame le christianisme, c'est pas l'individuation du genre humain, c'est la personne humaine qui est mise en valeur. Or, il y a une différence fondamentale entre un individu qui est une entité quasiment arithmétique ou statistique et une personne qui est un être doté de raison, de responsabilité, en tout cas d'esprit de responsabilité, ce qui lui confère des droits, mais aussi les devoirs inhérents à cette perception très élevée de l'individu. Autrement dit, la personne est beaucoup plus que l'individu. Et c'est la personne humaine qu'il faut remettre grâce, si j'ose dire, à ce grand malheur qu'est cette épidémie, qu'il faut remettre au goût du jour, au détriment de l'individu qui a pris trop de place. L'individu, c'est le consommateur. L'individu, c'est ce que le marketing divise en segments pour vendre plus tel ou tel produit. Eh bien, la personne, c'est une entité dont aucune n'est comparable à l'autre. Chaque personne humaine a sa définition, et autant de milliards que nous soyons sur Terre, ça ne changera pas. La personne n'est pas l'individu. L'individu est quelque chose de dépersonnifié, et c'est ainsi qu'on est arrivé à une société d'abondance. Et cette croyance en l'abondance comme finalité générale des civilisations nous a mis, pardonnez-moi l'expression, dans le mur.
Vous écoutez Religion du Monde. Notre invité est Christian Macarian pour son livre « Généalogie de la catastrophe, retrouver la sagesse face à l'imprévisible » aux éditions du CERF. Christian Macarian, Spinoza, pour vous, ce grand philosophe du XVIIe siècle, c'est sa revanche aujourd'hui. Pourquoi ?
Parce qu'il est très à la mode, parce que justement c'est un philosophe athée qui s'est beaucoup méfié des religions, qui a eu d'ailleurs beaucoup d'ennuis avec les religieux à son époque.
Il a reçu un coup de couteau quand même.
Il a reçu un coup de couteau de la part d'un fanatique. Il était juif, il n'a pas pu être enterré dans un cimetière juif. Sa dépouille a été accueillie dans un cimetière protestant. Il a fait l'objet de véritables équivalents d'une excommunication. C'est pas le terme dans le judaïsme, mais c'est celui qu'on comprend tout de suite. Mais Spinoza avait posé une base essentielle, c'est que il appelait Dieu ce qui était le fonctionnement de la nature, c'est-à-dire cette dynamique qu'on voit partout, et c'est quelque chose évidemment qui est très à la mode aujourd'hui, puisque ça consistait à croire à la vie. C'est en tout cas comme ça que Spinoza a été traduit chez nos philosophes à la mode aujourd'hui, hein. Et Spinoza passe pour une sorte d'esprit mathématique que je trouve personnellement très très difficile à lire, hein, je préfère le dire, mais l'éthique de Spinoza est un livre objectivement difficile, et parfois même incompréhensible. Mais néanmoins, il est à la mode parce qu'il ne propose pas d'option déiste, et il propose à chacun de se comporter de manière droite et juste, et d'apprécier la vie comme elle vient, le bonheur et le malheur, et de toujours croire que l'homme peut répliquer aussi bien au bonheur qu'au malheur.
C'est ça, pour lui, effectivement, la création ne vient pas de Dieu, le malheur ne vient pas de Dieu.
Non, il place Dieu dans la mécanique principale cosmique, il appelle ça Deus sive natura, Dieu ou la nature, c'est-à-dire que il voit Dieu comme le fonctionnement de la nature, et ça n'a pas été très bien compris non plus.
Alors, par rapport aujourd'hui, effectivement, à l'écologisme, à même parfois, pour certains, l'idéologie écologiste, Spinoza était quasiment un précurseur.
Pour les écologistes, à travers cette phrase que je viens de citer, Deus sive natura, évidemment, ils ne croient pas forcément en Dieu, mais ils déifient la nature.
C'est ce qui se passe actuellement?
C'est ce qui se passe chez certains d'entre eux, en tout cas chez les plus engagés ou les plus extrémistes des écologistes, qui voient même le christianisme comme un courant de pensée qui a détruit la nature et qui est allé contre la nature. Parce que on trouve, notamment dans les écrits de l'apôtre Paul, certaines phrases dépréciatives pour les animaux. Mais c'est mal lire la Bible. Et c'est mal lire le message de Jésus. Il y a constamment, dans les paroles de Jésus, une référence aux animaux ou au règne végétal. Regardez les lys des champs comme ils sont vêtus. Nul d'entre vous, là je paraphrase les paroles de l'Évangile, nul d'entre vous, en essayant d'être le mieux vêtu, n'arrivera à obtenir la grâce des lys. Donc là, c'est une fleur qui est mise en avant. Ensuite, Jésus est constamment au contact avec l'élément naturel, y compris dans le fameux épisode sur le lac de Tibériade, où il est question de marcher sur l'eau, ce qui, bien entendu, est une métaphore pour ne pas couler. Jésus propose un chemin pour ne pas sombrer. Et c'est ainsi que la nature se retrouve totalement en imbrication avec le message chrétien. Mais c'est un détournement complet du sens auquel on a assisté, à travers notamment l'épisode nietzschéen du Xe siècle, qui a eu énormément d'impact au XXe siècle. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes philosophes, talentueux d'ailleurs, je ne les critique pas, sont nietzschéens ou post-nietzschéens, parce que ce côté moral du faible, ce côté misérabiliste ou voire doloriste du christianisme a fortement déplu à Nietzsche, et aujourd'hui ça n'est plus du tout à la mode. C'est la raison pour laquelle très souvent on encense Montaigne, qui lui ne se préoccupe pas de métaphysique. Justement, c'est le sage le plus amétaphysique qui soit, et c'est très important de rappeler, à mon avis, ces bases philosophiques. Chacun y prendra ce qu'il veut. Il faut respecter les convictions ou les non-convictions de chacun. Mais ce que je trouve dérangeant, c'est qu'aujourd'hui, les écologistes adoptent un langage quasiment religieux, tout en étant contre la religion, et notamment en déifiant la nature. Et la nature n'est pas faite pour être déifiée, elle n'est pas non plus faite pour être piétinée et maltraitée comme la civilisation post-industrielle a pu le faire. Elle doit être à sa juste place, mais l'homme n'est pas un étranger sur cette terre. Et ça, beaucoup d'écologistes se trompent en culpabilisant l'homme. Si nous devons porter, nous, espèce humaine, la charge de la planète et de sa dégradation, plus l'épanouissement de l'humanité, nos épaules ne seront jamais assez larges pour porter tout cela.
Et d'ailleurs, vous citez dans votre livre, Christian Macarian, un passage tout à fait intéressant sur les Romains. Vous dites finalement, on accuse la civilisation industrielle, bon, ce qui n'est pas faux, hein, qui a pas mal abîmé la nature, mais les Romains avaient commencé déjà, ne serait-ce qu'avec les termes, en abattant les forêts.
Voilà, c'est ce que les écologistes ne veulent pas voir, parce que très souvent, ce ne sont pas des gens qui sont portés vers l'histoire, et encore moins l'histoire des civilisations, des philosophies et des religions, mais le plus grand désastre écologique, ce sont les bains romains, ou les constructions navales indispensables à l'Empire romain, qui ont arraché tous les arbres qui avaient un tronc bien droit du pourtour méditerranéen, les forêts de chênes sont devenues des forêts de pins d'Alep qui, comme chacun sait, sont extrêmement inflammables. Mais pourtant, il est difficile d'imaginer, mais les calanques de Cassis ou parfois les abords de l'Italie du Sud étaient couverts de chênes que les Romains ont arrachés.
Donc pour vous, la nature ne se venge pas ?
Non, la nature ne se venge absolument pas parce qu'elle n'a pas en elle-même un esprit, et encore moins un esprit opposé à l'homme. C'est à l'homme d'exercer sa responsabilité et de savoir ce qu'il fait quand il détruit la nature de façon inconsidérée. Parce que de toute façon, l'homme, pour faire sa place, devra faire reculer par moment les bêtes sauvages ou la nature végétale. C'est évident. Mais tout cela doit rester dans des proportions raisonnables et doit surtout respecter l'harmonie de l'ensemble. C'est cette harmonie qui réside très souvent dans les évangiles et encore une fois dans le message de Jésus qui constamment invoque soit le végétal, soit l'animal. Hein. Bon, la dernière semaine de Jésus, ce que les catholiques appellent la semaine sainte, débute par l'arrivée de Jésus dans Jérusalem, juché sur un ânon. Donc, on voit bien le symbole de modestie que ça suppose. Mais enfin, c'est quand même un ânon qui porte ce message-là. Il y a une jonction entre l'attitude messianique et le pauvre animal, si vous voulez. Et ensuite, l'abolition des sacrifices, ou bien la façon dont Jésus recommande de se comporter comme les oiseaux à travers cette fameuse parole que nous utilisons tous les jours, « À chaque jour suffit sa peine », cette parole est la conclusion d'une métaphore que Jésus utilise en disant « Regardez les oiseaux du ciel, ils ne font ni semailles ni moissons et pourtant ils mangent chaque jour à leur faim. » Donc vous les hommes, ne vous faites pas trop de soucis, ne vous faites pas trop de tracas. Vous ne pourrez pas allonger votre vie en augmentant votre souci. Donc vivez et vivez heureux. Et pour vivre heureux, soyez intelligents.
C'est la conclusion de votre livre, Christian Macarian. C'est l'appel à une conversion, en fait, intérieure.
Oui, à une pacification et un équilibre entre soi et les autres. Et franchement, cette épidémie, puisque le contact avec les autres est à l'origine de la diffusion et de l'expansion exponentielle de cette épidémie, il faut réfléchir à notre lien, chacun de nous, à notre lien avec les autres, avec la société, avec la nature, pour savoir quelle humanité nous voulons demain.
Je vous remercie, Christian Macarian. Je rappelle le titre de votre livre, Généalogie de la catastrophe, Retrouver la sagesse face à l'imprévisible, et c'est publié aux éditions du CERF. Et c'est la fin de Religion du Monde. Geneviève Delrue, Ludivine Amado vous donne rendez-vous dimanche prochain. Bonne semaine à tous.